Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Le samedi 5 octobre dernier, c'était le Salon des Vigneronnes à Piégros-la-Clastre, un événement organisé chaque année par l'association Les Matrones sur le terrain de la Poule à Facettes. Il y avait beaucoup de monde et les 21 exposantes étaient bien sollicitées. Mais j'ai laissé traîner mon micro, l'occasion de quelques rencontres avec ces productrices et artisanes du vin nature. Portrait.
Transparente y silenciosa, entre las olas que vienen y van, aunque parezca que yo estoy sola, entre toda esa inmensidad, siempre hay un pez que se me acerca y con permiso me invita a bailar. Bajo las estrellas y de la luna, yo soy medusa y te vine a cantar. Bajo las estrellas y de la luna, yo soy medusa y te vine a cantar.
Salut Aude.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter?
Eh ben, je suis Aude Barallon, je suis vigneronne en Nord-Ardèche. On s'est installé avec mon compagnon en 2019 et on s'est installé sur une ferme où il n'y avait pas de vigne. Donc on a planté la vigne depuis le début. On a commencé donc en 2019 et puis on a continué en 21 et en 22. Et on a maintenant 2,5 hectares de vigne qui sont au début de production. Et là, donc, je présente les vins 2023 et c'est le deuxième millésime.
Pourquoi avoir choisi une ferme où il n'y avait pas de vigne?
En fait, c'est l'endroit où on avait envie de s'installer. Et puis, il y a deux vignerons qui s'étaient installés un tout petit peu avant nous dans le village. Donc, voilà, il y avait bel potentiel de faire de la vigne à cet endroit-là. D'ailleurs, on a replanté sur des anciennes terrasses de vigne, mais je ne saurais pas dire depuis combien d'années il n'y en avait plus. Et bon, c'est sûr que c'est difficile de monter un projet depuis le début, mais c'est, voilà, des défis.
Du coup, on comprend qu'en fait, la zone a quand même pu être viticole, elle n'était plus du tout.
Jusque, je crois, dans les années 60, il y avait de la vigne. Je ne pourrais pas dire sur nos parcelles quand exactement, mais au niveau du village, c'est ça. Et il y a eu après des initiatives à partir de, je crois, 2020. Il y a eu des initiatives de replanter un peu des parcelles, de faire des tests, voilà. Il y avait une envie, voilà, on s'est inscrit dans une envie de ce terroir-là aussi et des gens qui y habitent. On a été très bien accueillis avec notre projet, c'est sûr.
Pourquoi la vigne?
Pour le vin.
C'est quoi ton parcours pour en arriver là?
Moi, je suis fille d'agriculteur, mais je suis fille d'éleveur. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le spectacle. Donc rien à voir. J'étais administratrice pour des compagnies de danse. Donc voilà, je faisais du portage de projet, du montage de projet. Et pourquoi le vin? Je sais pas, c'est une idée qui a germé petit à petit. D'abord, en fait, ce qu'on voulait, c'était aussi un mode de vie. Et donc je pense que le premier choix, c'était de choisir l'agriculture. Et après, je pense qu'on s'est orienté vers un produit qui nous parlait tous les deux. Avec mon compagnon, on avait très envie de transformer aussi. Il y avait que le fait de cultiver, mais il y a aussi le fait de transformer. Et voilà, le vin, c'est tellement passionnant, c'est un tel terrain d'expérimentation et de possible que voilà, c'est ça qui nous a parlé.
Bah, parle-nous-en un peu, qu'est-ce que t'aimes expérimenter? Qu'est-ce qui se joue quand vous faites vos cuvées?
Et bah déjà, il se joue qu'on fait avec ce qu'on a. L'idée, en tout cas, nous, c'est notre façon de travailler, c'est d'essayer de sublimer ce qu'il y a, ce qui va sortir cette année. Et donc, quand je dis c'est un terrain d'expérimentation, c'est dans le sens où il faut sentir les potentiels et aussi s'adapter aux contraintes, et tout en ayant des lignes directrices de ce qu'on a envie, enfin une sorte de philosophie de ce qu'on a envie pour être dans un grand cadre et faire avec les contraintes de l'année.
Quand tu parles de philosophie, c'est quoi? C'est le goût ou c'est une méthode que vous essayez d'appliquer, d'affiner?
Eh ben en fait, c'est les deux, parce que nous, on travaille en vin nature, donc on travaille en levure indigène, et c'est pour ça que je dis c'est beaucoup faire avec le vivant. Donc ça, c'est plus pour la méthode, ça va être ça. Et après, il y a aussi des envies de goût, bien sûr. Ouais, nous, on aime un certain type de vin, et on a envie de faire des vins qui nous plaisent, tout simplement, et bien sûr de les partager, mais avant tout de faire des vins qui nous plaisent, qui correspondent à nos goûts. Nous, on va chercher de la fraîcheur, du fruit, ça va être ça, nos lignes directrices.
Alors ici, c'est le salon des vigneronnes. Tu viens donc et tu parles tout le temps de on. Est-ce que c'est toi qui vinifie, c'est toi qui est quand même mise en avant dans ce duo?
Ça a été un montage en fait de projet à deux. Ouais. La vinification, c'est pour ça que je dis on, c'est parce que la vinification, c'est le domaine qu'on fait ensemble. Après, à la vigne, le travail et les responsabilités sont réparties. On s'est donné des grands domaines dans lesquels l'un est référent. Et donc référent pour l'autre aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en discuter, mais chacun porte la responsabilité et donc la charge mentale d'une partie du travail. Et par contre, en cave, je crois que vraiment, c'était l'idée aussi de faire quelque chose ensemble. Donc après, je pense que c'est comme dans tous les duos, on serait deux filles, ce serait pareil, il faut s'accorder, quoi. Mais j'ai pas au sein du projet, j'ai pas de mal à trouver ma place.
Et est-ce que c'est plus toi qui vends, du coup ?
D'habitude, on est deux sur les salons. Ouais. Ouais, parce que en fait, c'est un moment important, la vente. C'est aussi un moment de retour. C'est gratifiant aussi. Ça peut être des mauvais retours, ça peut arriver. Mais en tout cas, quand c'est gratifiant de partager son produit avec les gens, c'est un peu l'aboutissement de tout le travail. Et ce serait pas tellement juste qu'un des deux qui ait la gratification.
Parle-nous un petit peu de comment vous travaillez la vigne.
Alors la vigne, on la travaille en bio. Parce que c'est un peu le présupposé de base, je pense, pour faire du vin nature. Et après, y a tout un protocole aussi qu'on met en place de soins de la plante par la plante, donc avec des extraits fermentés, des huiles essentielles. Voilà, on essaye aussi, que ce soit à la vigne ou à la cave, de travailler avec le moins de choses possibles, quoi, en rajoutant le moins de choses possibles. Et en tout cas, au niveau de la vigne, on essaye vraiment d'accompagner la plante, de lui créer des défenses. Et ça, c'est peut-être l'avantage de planter soi-même. C'est que depuis le début, on essaie de créer des défenses à la plante. Par exemple, nous, on a fait le choix de planter sans irrigation aussi, ce qui n'est pas forcément évident. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire si la plante arrive à aller assez profond, ça pousse aussi à aller chercher l'eau qui est en profondeur.
Et du coup, tu es moins sujet aux problèmes climatiques, comme ça a beaucoup flingué les vignes ces derniers temps ?
J'ai pas de recul pour répondre de façon pertinente.
Est-ce que c'est mécanisé ?
Très peu. Le travail du sol se fait au chenillard. Donc on a un chenillard des années 70 qui est fonctionnel. Pas mal de travail à la main aussi, parce qu'il y a vraiment des zones où on ne peut pas passer, même en chenillard. On est vraiment dans le pentu. Ouais, non, il y a très peu de choses mécanisées. Hein. Et après, l'idée aussi, c'est de travailler en herbé. Voilà.
Aude, est-ce que tu nous présentes les cuvées, donc Coteau de la Pote ?
Alors, je vais commencer par le blanc. Donc c'est les cuvées 2023. Le blanc, donc c'est un 100% chardonnay qui a 8 mois d'élevage en cuve en grès, parce que du coup la cuverie, on a décidé de travailler dans la terre on a choisi le grès parce que c'est pas très poreux, donc il y a des contacts avec l'air, il y a de la porosité mais pas trop. Donc nous, c'était vraiment ce qu'on cherchait pour l'élevage, et puis parce que ça développe vraiment la minéralité, le fruit, ça permet d'avoir des tanins assez fondus. Donc c'est comme ça qu'on travaille sur l'élevage. Donc le blanc, 8 mois d'élevage en grès, et pour l'instant ça a été mis en bouteille en mai, donc c'est des vins qui sont assez jeunes encore.
Que t'inviterais à laisser vieillir ?
Oui, en tout cas il y a un potentiel de garde, oui. Ils sont en place, c'est pour ça que je les présente maintenant, mais il y a un potentiel de vieillissement, bien sûr. Ensuite on a, j'ai choisi des noms de vins, donc Zéphyr il s'appelle le blanc. Ensuite on a du Gamay, un 100% Gamay, qu'on a fait pareil, en fait, un petit peu élevage même durée. Donc c'est un vin qui va être très sur le fruit, avec un petit côté arlequin, il a un petit côté acidulé. Voilà, il est assez dans la légèreté. Et c'est vraiment, pour moi, il correspond bien à ce qu'on a envie de faire.
Et toujours dans du grès aussi ?
Toujours dans du grès, ouais. Ouais, c'est vraiment, on avait vraiment ce souhait d'élever tout en grès, et donc on le fait, quoi.
Donc du coup, c'est quoi ? C'est une cave, vous avez enterré, t'as creusé, c'est les...
Ah non, non, c'est pas... On n'a pas des amphores enterrés, et ça se fait, hein. Mais nous, c'est pas ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'on a pris le grès, parce que les amphores, il faut les enterrer, justement. Donc le grès, il y a moins de porosité, donc ça permet de les avoir à l'air.
Ah oui, voilà, c'est ça, j'avais pas compris.
Ouais, okay. Ouais, mais non, du coup, c'est des grandes... Moi, je les appelle c'est des grosses dames, parce qu'elles sont grandes, elles sont larges. Elles sont plus hautes que moi. Bon, je suis pas très grande, mais quand même, elles sont pas mal plus hautes que moi et assez larges. Et c'est des grandes poteries, quoi. Voilà, avec pour des praticités de travail, des vannes, tout ce qu'il faut.
Et la dernière ?
Et la dernière, c'est Mistral, donc un 100% Syrah qu'on a essayé de travailler avec pas mal de fraîcheur pour rester sur quelque chose d'assez léger. Et puis, ouais, c'est un vin qui est bien équilibré et qui va avec beaucoup de choses. C'est un vin qui a des marqueurs, un peu les marqueurs qu'on attend de la Syrah, mais dans une bonne digestibilité.
Les étiquettes, tu nous en parles ?
Alors, les étiquettes, c'est Pascale Bresse qui les a fait. Pascale Bresse, c'est une illustratrice jeunesse que, du coup, je connaissais de mon travail d'avant, enfin, que j'ai connue grâce à mon travail avant, et à qui, du coup, j'ai proposé ce projet de gouttes végétales parce que ça correspondait à son univers. Hein. J'avais bien feuilleté ses livres et ceux de pas mal d'autres auteurs aussi. Et ouais, du coup, j'ai proposé ce projet de goutte avec une déclinaison, voilà. Et c'était l'idée que dans la goutte, il y ait toute la vie végétale, animale qui entoure le vin.
Est-ce que tu veux terminer avec des éléments de com ?
Alors, on peut nous trouver à Desagnes, donc Coteau de la Pote. On peut nous suivre sur les réseaux parce que donc j'ai un Insta, le site internet pas encore. Vous pouvez acheter en direct ou chez un de nos cavistes ou restaurants revendeurs.
Il y en a un peu partout en France ?
Il y en a à plusieurs endroits en France, mais ici je crois que le plus proche est à Saint-Péret, donc c'est la fromagerie à Saint-Péret qui vend nos vins. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche d'ici.
Aude, merci à toi.
Merci à toi.
Salut Dorothée.
Salut Baptiste.
Présente-toi.
Eh bien, je suis Dorothée, vigneronne à Valvinière, en Ardèche, avec mon mari, Lilian, et on vinifie depuis 2021.
Une ferme que vous avez récupérée.
Les vignes sont exploitées depuis 30 ans par mon mari, donc c'est son métier. Et il a amené à la cave coopérative et on a pu sortir les terres de la cave coop en 2021 pour vinifier pour nous.
Pourquoi sortir de la cave coopérative ?
Parce que c'était un rêve de vinifier. Moi, je suis de formation œnologique et j'ai vinifié pendant plusieurs années en cave coopérative. Voilà, on s'est rencontrés en cave coopérative et on a voulu sortir tout ça et faire notre propre vin, en fait.
C'est quoi, là, pour toi, la vraie différence, puisque tu vinifiais ?
La différence, c'est de pouvoir gérer mes vinifications comme je l'entendais et non comme un groupement de caves voulait l'entendre. De retrouver l'effet millésime, parce que malgré tout, il y a un effet millésime, un effet terroir, un effet climat et surtout sans produit, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'en cave coopérative on mettait énormément de choses et moi je me retrouvais à travailler avec des masques à gaz et c'est pas possible.
C'est ce qu'on appelle les intrants dans la partie vinification.
Ouais. Donc y a plein d'intrants hein, qui ont chacun leur utilité si on le souhaite, on peut en trouver une.
Balance des noms.
Oui, il y a les levures, les enzymes, on peut acidifier, donc de l'acide, on peut désacidifier, on peut maintenant désalcooliser. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais maintenant on a le droit. Et donc sulfiter, qu'est-ce qu'il y a encore ? On peut coller, on peut faire plein de choses. Finalement, ça revient à stériliser le jus de départ pour remettre ce qu'on veut dedans pour qu'il devienne totalement autre chose, sans laisser s'exprimer les matières présentes au départ, en fait.
Quand on dit ce vin a un goût de banane, par exemple, c'est un vin qui peut pas...
Qui a été surtout, moi, je pense, levuré avec des levures qui donnent ce goût-là. Du coup, voilà, c'est des levures qui sont sélectionnées et sur tel cépage, ça donnera ce goût-là. Voilà, donc ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'en avait plus, voilà.
Et quand tu parlais de masque à gaz, c'est...
C'est pour utiliser, pour sulfiter les cuves. Voilà, donc dans l'hiver, on sulfitait les cuves. Donc nous, on avait des grosses cuves, hein, 300, 400 hectos, voire 1200 hectos. Et on sulfitait avec du SO2 pur. Et pour utiliser ce SO2 pur, on était contraint de mettre un masque à gaz parce que c'est irrespirable, ça attaque le cerveau, quoi. Et moi, je sais que c'est un produit que je ne peux plus respirer, quoi. C'est horrible.
Et ça reste dans le vin ?
Eh ben oui, il reste dans le vin. Oui, oui. Et donc, on utilise un masque à gaz, voilà, pour s'en servir. Donc, après, chacun en pense ce qu'il veut. Moi, j'ai fait mon choix.
Est-ce qu'on peut tranquillement dire à l'auditrice et à l'auditeur, si vous buvez du vin pas sulfité, vous aurez moins la tête niquée ?
Oui, certainement, oui.
Bon, avec modération. Raconte-nous du coup aussi votre cave, là, comment vous l'avez fait ? Tu travailles avec quel...
Ouais, alors du coup la cave, on a quand même aménagé vite fait notre garage. Donc on a la chance d'avoir un très grand garage. Donc on a pu rentrer quelques cuves, on a investi vite fait dans le matériel indispensable, un pressoir, voilà, tout d'occasion. Et voilà, on a attaqué comme ça. On a une cuve inox qu'on a eu la chance de trouver d'occasion. Après, on a que des cuves fibres. Et puis il suffit d'avoir une bonne hygiène et de bien les entretenir et on n'a pas de soucis particuliers, enfin pour l'instant. Voilà.
Et est-ce qu'un garage par rapport à une cave, on s'imagine qu'il y a des climats, des humidités, fraîcheur, chaleur ?
Oui, oui, bah du coup, il faut l'isoler un peu mieux que ce que peut être isolé un garage. Et voilà. Mais ça fonctionne très bien pour l'instant. Après, on aimerait bien développer, faire ça mieux, agrandir, faire un bâtiment quoi, plus fonctionnel. Pour l'instant, voilà, on ne peut pas, mais c'est l'idée, quoi, c'est le projet. Ouais.
Parle-nous un peu de la vigne. Alors, travailler en bio, du coup, mécanisé, explique-nous.
Alors, donc c'est plus mon mari qui gère la vigne. On a chacun notre domaine. Hein, voilà. Moi, je l'aide dans les vignes, et lui, il m'aide en cave. Mais voilà, on a chacun notre domaine. Les vignes, très peu de travail du sol. On laisse un enherbement, voilà, sauf au pied. Voilà, on travaille mécaniquement au pied pour désherber. Puis après, on fait une grosse majorité à la main, voilà, des traitements, bon, en tracteur, hein, on a 8 hectares. Donc voilà, traitement en tracteur, soufre et cuivre, et après, tout est fait à la main. Enfin, je veux dire, on taille forcément à la main. Au printemps, tout le travail est fait à la main. Voilà, on fait tout tous les deux, pour l'instant.
Même les vendanges ?
Non, on n'embauche que pour les vendanges.
Ah mais c'est bien de le dire, parce que vous faites donc partie de ceux qui embauchent encore pour les vendanges et vous n'êtes pas la machine.
Oui, on embauche pour les vendanges et c'est sympa, c'est génial. On fait des connaissances tous les ans, de nouvelles personnes ou pas, voilà, qui reviennent. Et c'est très enrichissant.
Bon, bah alors reconcentrons-nous maintenant sur ta partie. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tes cuvées et le travail que tu y as fait ?
Oui, alors donc nous on travaille sans aucun intrant, c'est-à-dire qu'on part vraiment du jus de raisin, enfin du raisin, et qu'on guide à devenir vin en gérant juste la température de fermentation. Donc juste avec des drapeaux, on refroidit, on ne peut pas réchauffer. Et en fait, on y arrive plutôt bien, je trouve. Donc nous on a du Sauvignon blanc, on fait un blanc macéré, un vin orange, pardon.
Alors ça, c'est le principe, c'est qu'on dans le rouge, c'est habituel, on laisse toujours la peau. Oui. Dans le blanc, non. Là, et là, on le laisse.
Et là, voilà, on laisse macérer donc les grains dans le jus. Et nous, on le fait. On a choisi de faire des longues macérations, donc sur 8 à 10 mois. Donc tout l'hiver, on décuve au printemps. Donc voilà, ça permet aux tanins de se fondre et ils sont moins séchants, moins présents en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. Et il y a les polyphénols qui sont extraits, donc on acquiert une couleur orangée.
Ça, c'est donc pour ton Sauvignon ?
Non, ça, c'est pour le... En fait, ça change un peu en fonction des années. On a eu Chardonnay, Viognier, et là, on a Chardonnay, Sauvignon. Voilà. Ça dépend des années, en fonction de la récolte. Voilà, parce qu'il faut que la récolte soit très belle aussi, il ne faut pas qu'il y ait de pourriture, il faut que ce soit très simple pour pouvoir faire de la macération.
Donc, si on reprend, donc là tu m'as parlé de laquelle ? De Inébriant, voilà. Zazou,
c'est un Sauvignon blanc, presse direct, vinifié, élevé en cuve. Voilà. Nous, on n'a pas de fût, on n'a pas la place. Donc, au moins, c'est résolu.
Ça change bien le goût ?
De ne pas avoir de fût ? Non. Enfin, moi, je trouve pas, mais on peut faire quand même des choses sympas sans fût.
Heureusement.
Oui, encore. Heureux.
Et il y a un rouge ?
Et il y a un rouge, un pétricor, un grenache. Alors, Grenache 22, très léger, qui fait 11,5 degrés. C'est plutôt un vin de soif, fruité, léger, voilà, à servir un peu frais. Très sympathique à boire avec des grillades, voilà, un vin d'été. Ou pas, toute saison.
Et les étiquettes ?
Ah, les étiquettes. Eh bien, les étiquettes, les notes, c'est un copain qui fait du street art à Lyon, qui s'appelle Bunka, et qui commence à grimper, qui fait des expositions. D'ailleurs, c'est très, très sympa. Sur Lyon, c'est Bunka, B-O-U-N-K-A. Il a un site aussi, une page Insta et Facebook. Et franchement, il faut aller voir parce qu'il fait des trucs super.
Et qu'est-ce que vous avez cherché à dire avec vos étiquettes ?
Ah, ben nous, on a féminisé l'étiquette. Voilà, donc nous, c'est féminiser et végétaliser l'étiquette. Voilà, donc c'est des étiquettes qui montrent voilà, bah, que c'est un vin de femme et naturel.
On peut terminer avec des éléments de com ?
Oui, bah, on fait donc, bien évidemment la vente directe sur rendez-vous. On a un réseau social Instagram et une page Facebook. Voilà, comme beaucoup, assez simplement. On trouve nos coordonnées donc, sur Internet. Et oui, il suffit de prendre rendez-vous pour venir visiter et déguster. Et après, en vente en Ardèche, on a la petite cave à Vauguée. Et en local, ouais, ça sera le seul, je pense. Après, on nous trouve un peu partout en France. Voilà.
Dorothée, merci à toi.
Merci.
Salut Gaëlle.
Salut.
Sur ce salon des vigneronnes, tu nous présentes donc tes vins. Est-ce que tu pourrais aussi commencer par te présenter toi ?
Alors, je me suis installée en 2016, je suis partie de zéro, c'est pas du tout une reprise. J'ai planté ma première vigne en 2016 et tous les deux ans, je replante une petite parcelle. Tous les ans, je rachète un peu de matériel, quelques bennes, quelques cuves. C'est hyper progressif. Pour l'instant, là, je suis un petit hectare et je fais 3000 bouteilles par an à peu près.
Où ?
Ah oui, où ? Je suis sur les hauteurs de Tournon-sur-Rhône, à plat, un tout petit village. On est à 450 mètres d'altitude et sur un sol granitique assez ingrat, mais parfait pour la vigne.
Il n'y avait pas de vigne avant, puisque tu dis que tu sais pas une reprise, ou il y avait une culture de la vigne quand même à l'endroit ?
Il n'y avait pas du tout de vigne. Non, c'était des prairies que j'ai décidé de planter.
Ouais, même historiquement, ça n'a jamais été une terre de vigne.
Historiquement, dans le village, il y en a eu, mais pas dans notre quartier. C'est essentiellement de la forêt et il y a beaucoup de sangliers, chevreuils et autres. Ça dissuade assez de faire de la vigne, parce qu'ils viennent tout manger.
C'est vrai.
Voilà.
Pourquoi la vigne ?
Parce que j'aime le vin. parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec les copains vignerons alentour et que bah, c'est un super métier, c'est complet, c'est autant une partie de l'année dehors... en contact avec le végétal et le reste de l'année à la cave où voilà, on fait notre petite tambouille, on bidouille.
Et tu venais d'où ?
Avant ça, j'étais aide-soignante et je faisais la médecine traditionnelle chinoise et du massage. Donc rien à voir.
Et t'en vis aujourd'hui ?
Je suis pas trop exigeante. Non, c'est difficile. Bon, en 2022, j'ai une année où j'ai perdu l'intégralité de ma récolte à cause des sangliers, justement.
Donc voilà, ça a mis quand même un coup dans l'aile. Donc là, financièrement, il faut se remettre d'aplomb.
Est-ce que tu peux nous parler du coup de comment tu travailles tes vignes?
Alors, il n'y a absolument rien de mécanisé. C'est en bio labellisé depuis l'année dernière. Mais sinon, je travaille essentiellement avec des décoctions de plantes, du petit lait, après soufre et cuivre quand il faut. Et à la cave, c'est vinifié sans intrants. Une fois, j'ai mis des sulfites à la mise en 2021. Sinon, il n'y a rien du tout.
Tu regrettes?
Pas du tout. C'est ce qu'il fallait.
Explique-nous pourquoi.
J'étais pas confiante dans ce vin. Et en fait, ça a peut-être rien changé au niveau du vin, mais ça m'a permis de dormir.
Parle-nous donc de ce travail de cave. Alors, toi, tu as appris sur le tas, tu as fait quelque chose pour aller vers l'œnologie?
Pas du tout. J'ai appris chez les copains chez qui je travaillais. Merci les réseaux. Mon père faisait du vin aussi, donc, mais juste pour le plaisir. Mais voilà, j'ai aussi appris la base, en tout cas, du process avec lui. Et après, dans les bouquins, les formations. Voilà. Et je ne sais pas toujours ce qui se passe non plus dans mes cuves.
Alors, c'est quoi comme cuve?
Les fermentations, c'est dans les cuves inox. Vu que je suis sur des petits volumes, c'est des 10 hectos. J'ai la chance d'avoir une cave ensemencée, donc les fermentations sont hyper rapides. En général, en 5-6 jours, j'ai fini mes sucres, ce qui me permet de faire des macérations courtes, si je veux. Et après, au niveau de l'élevage, au début, j'avais quelques tonneaux, mais là, maintenant, c'est 100% amphores. C'est des amphores espagnols. Voilà, ça permet d'affiner les vins sans les marquer. Et c'est un contenant que j'adore.
Enterré, du coup?
Semi-enterré et coffré.
Et qu'est-ce que c'est qu'une cave? Tu nous as dit une cave...
Ensemencée.
C'est quoi une cave ensemencée?
En fait, c'est historiquement, il y avait donc du vin qui était fait dans cette cave par mes grands-parents. C'est un lieu qui n'a pas de famille. Mes grands-parents faisaient du vin. Et du coup, des levures se mettent sur les murs. Donc c'est vrai que quand j'amène ma vendange, des fois, même en quelques heures, les fermentations commencent déjà parce que les levures sont déjà dans l'air.
Donc t'as pas besoin, toi, de déclencher quelque chose, quoi?
Ah non, j'ai absolument pas besoin. Au début, je faisais un pied de cuve, mais en fait, ça sert à rien. Et plutôt, il faut que je temporise mes fermentations plutôt que les stimuler.
Du coup, qu'est-ce que tu fais là, dans ce cas-là?
Il faut refroidir, parce que le problème, c'est que quand le raisin fermente trop vite, ça chauffe. Et au-delà d'une certaine température, ça tue les levures, donc ça arrête tout le process. Dans ce cas-là, il faut refroidir. Alors au début, je faisais ça de manière très, très artisanale avec des serviettes éponges que j'arrosais. Enfin, bon, c'était une tannée. Et là, j'ai acheté un drapeau cette année qui a c'est un circuit d'eau dans un objet en inox. Il y a de l'eau qui circule, qui vient rafraîchir au cœur de la cuve.
C'est délire, le coup des serviettes, j'avais jamais entendu. Parle-nous de tes cuvées, du coup.
Alors là, aujourd'hui, j'ai deux cuvées à présenter. La première, c'est un blanc qui s'appelle Attire-d'aile. En 2023, c'est un assemblage d'une macération de chasselas et une presse directe de roussanne. Le chasselas a été ramassé volontairement pas mûr, parce que sinon, il se faisait manger par les guêpes et les abeilles. Donc, il a été ramassé à 9-10 degrés et macéré pendant 10 jours et raflé. Et à côté, les roussanes étaient hyper belles, ont super bien tenu. Donc un mois et demi après, j'ai pu couper mes roussanes, qui étaient à 14 degrés dorées à souhait, et qui ont été pressées direct. Et c'est ces deux vins qui ont été assemblés.
Ce qui te donne quoi?
Ah bah, il faut le goûter. Mais ça permet d'avoir... Parce que la roussane, ça peut vite être un peu lourd, un peu chargé. Et le chasselas, qui aromatiquement... être un peu moins intéressant, et la pâmure vraiment très tendue. Donc ça permet d'avoir un bel équilibre entre les deux.
Et le rouge?
Et le deuxième, donc à vol d'oiseau, qui est ma Syrah, donc de 2023 aussi. Et là, ça a été un procédé assez simple. 6 jours de macération, 6 mois d'élevage, et ça a été mis en bouteille au printemps. Et voilà.
C'est des vins que tu dirais qui peuvent se conserver, parce qu'on parle souvent de ça dans le vin nature.
Alors oui, carrément, ils peuvent se conserver, notamment cette Syrah qui même est là presque un peu trop jeune pour la boire là maintenant. Là, je pense que d'ici un an ou deux, elle va être parfaite. Après, je dirais, je ne sais pas si dans 30 ans, elle sera encore bonne, mais des fois, ça peut être plein de surprises.
Tu nous as dit « on » aussi. Est-ce que tu ne travailles pas toute seule?
Alors, je travaille toute seule. Après, il y a les copains qui viennent aider pour les vendanges. Et j'ai quand même mon mari qui est là pour les vendanges aussi. Et puis pour garder les enfants quand je suis à la vigne. C'est bien.
Parle-nous des étiquettes.
Ah, elles sont belles, ces étiquettes. C'est une copine qui me fait ça, qui est peintre. Et je lui donne le nom de ma cuvée et elle me compose une étiquette sur mesure pour le vin.
Tu veux la citer?
Elle s'appelle Laure Carada. Elle est à côté de Montpellier et elle est super.
On peut terminer avec des éléments de com, si t'en as.
Alors, je suis vraiment pas très bonne en com. J'ai un compte Instagram. Donc voilà, Gaëlle Passa, je crois, ou Passa Gaëlle. Quoi d'autre? Vous pouvez passer à la cave. Je reçois les gens à la cave.
Redonne-nous l'adresse.
C'est 34 route de Lyon, 07-300 à Saint-Jean-de-Muzol. C'est hyper facile à trouver, c'est en bord de National. C'est pas l'endroit où sont les vignes. Sur les étiquettes, c'est le lieu des vignes. Mais chez moi, c'est vraiment une tannée. Pour y accéder, c'est des chemins en terre vraiment mauvais état. L'avantage, c'est que là, c'est en bord de National.
Et tu vends où?
J'ai quelques restaurateurs et magasins de producteurs à côté. Là, de tête, je les ai pas tous et j'ai pas assez de local à mon goût. Mais voilà, il faut que je prenne le temps aussi d'aller démarcher.
Merci à toi, Gaëlle.
Merci.
Bajo la luna y las estrellas, yo soy medusa y te vine a cantar.